Radio TerraZen, la web radio qui vous éveille à la vie en toute simplicité.
Bien, bonsoir à toutes et à tous, c'est Histoire du Soir avec Olivier Burette. Donc, toutes nos excuses pour tous ces problèmes techniques de configuration qui font que, on a perdu une bonne heure. Mais bon, c'est important, la technique. Et donc, surtout, je remercie beaucoup Cédric pour ta patience et ton esprit inventif pour avoir réussi enfin à remettre tout ça en marche. Donc maintenant tout fonctionne bien. On va donc commencer sans tarder donc cette émission qui va porter sur l'île de Pâques. Et d'un retour souhaité sur tout simplement l'histoire de l'île de Pâques. Et bien sûr sur un certain nombre de fondamentaux que l'on va essayer de recadrer. Alors, cette île, pour commencer, où est-elle? Elle est située effectivement très très loin aux confins de l'océan Pacifique, à plus de 4000 km des terres chiliennes. 3680 km exactement, et également elle est cette île très éloignée dans le Pacifique Sud, 3680 km des côtes chiliennes, 2000 km de l'île de Pitcairn, qui est l'île la plus proche, 4050 km aussi de Tahiti, c'est-à-dire de la Polynésie. On la connaît sous le nom de Rapa Nui, la grande Rapa. Et bien sûr, autre chose qui nous frappe l'esprit tout de suite au sujet de cette île, c'est bien sûr ces gigantesques statues, les Moai, qui font près de 4 mètres de haut. Il y en a à peu près 900 tout autour de l'île. Et ces Moai, ont été remarqués par les premiers navigateurs occidentaux qui, dans la foulée des grandes découvertes du XVIe siècle, etc., ont continué effectivement d'explorer un certain nombre d'îles et sont tombés le 6 avril 1722 sur l'île de Pâques. 6 avril 1722, donc découverte de l'île de Pâques, et par le Hollandais Jacob Roggeveen. C'est le premier contact avec les Occidentaux. Il la découvre en avril, début avril 22, donc au moment de Pâques, d'où son nom, bien sûr. Alors, cette île, il faut bien comprendre dès le début qu'elle est aux confins de tout. On est comme je vous le disais tout à l'heure, en présence vraiment d'un caillou isolé, ses dimensions sont d'une forme triangulaire, avec 23 km dans sa plus grande dimension, des côtes à peu près de 166 km² en tout. Alors vraiment, c'est un petit caillou perdu dans le Pacifique Sud, hein, et qui est vraiment encore très éloigné aujourd'hui. Aller à l'île de Pâques aujourd'hui, c'est faire plus de 20 heures de vol. Il y a déjà 14h10 de vol pour faire Paris-Santiago du Chili, hein, et encore 5h55, hein, pour aller de Santiago à l'île de Pâques. Alors, cette île, dans ses grandes dates, donc en 1722, découverte par donc le Hollandais Roggeveen, elle est annexée à la couronne espagnole en 1770. C'est là d'ailleurs qu'elle prendra ce nom de Isla de Pascua, hein, de Pâques. Et puis, elle deviendra une colonie du Chili, hein, chilienne, à partir de 1888. C'est encore le cas aujourd'hui, hein. Elle appartient, elle a un statut donc lié donc à l'État chilien, et elle est surtout patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1995. Donc il s'agit évidemment d'un haut lieu de conservation, évidemment de choses qui sont complètement encore inconnues pour nous, hein, qui sont très très éloignées dans le temps, hein. On ne connaît pas très très bien cette civilisation qu'il y avait là, et bah, on va essayer ce soir ensemble, hein, d'y comprendre un peu quelque chose. Alors, à l'origine, évidemment, il faut nous pencher sur le peuplement, hein, de cette île. Comment a-t-elle été donc peuplée, à partir de quand ? Hein, il faut savoir que ce caillou aujourd'hui dénudé qu'est l'île de Pâques, hein, on pourra mettre quelques cartes, je pense, sur l'espace de la web radio TerraZen sur Facebook par exemple, hein, n'a pas toujours été comme ça, hein, ça a été une île très peuplée, on estime, hein, les historiens estiment, les archéologues aussi, hein, à peu près à une population équivalent à 20 000, 30 000 personnes, hein, qui auraient été jusqu'à peupler cette île qui n'était pas ce caillou dénudé du tout que l'on voit aujourd'hui, hein, mais une île où, et on le sait aujourd'hui, notamment par des recherches archéologiques, hein, cette île était possédée, comme d'ailleurs beaucoup d'îles de la région, hein, une végétation luxuriante, hein, bien sûr, hein, et qui évidemment a disparu, et c'est justement un des enseignements, hein, de l'histoire de cette île isolée, c'est que bien sûr, hein, vous l'avez compris, on est en présence d'une population conséquente, hein, qui va progressivement épuiser, hein, les ressources de l'île, hein, afin de, évidemment, à la fin, hein, évidemment, de provoquer un certain nombre de destruction et de guerre. Alors, juste une chose, je rappelle donc que cette émission aura lieu toutes les fins de mois, hein, les derniers jeudis de 21h à 22h, sauf ce soir, bon, pour les raisons techniques que l'on connaît, mais fort heureusement, donc il y aura les podcasts, hein, ce soir on va rester ensemble à peu près jusqu'à 23h. Dans cette émission d'aujourd'hui, donc j'évoque l'île de Pâques, j'évoquerai le 29 octobre, le jeudi 29 octobre, et j'espère que là on pourra se connecter et que depuis d'autres types d'ordinateurs, enfin je verrai cela. Et le 29 octobre, j'évoquerai Dracula, hein, et le mythe de Dracula, et tout ce qui en retourne, bien sûr, en me concentrant sur l'histoire du personnage qui a existé. Également, il y a une page d'interactivité sur le site de la web radio TerraZen, et justement, je me connecte à l'instant, à chacun peut à la possibilité de, alors j'espère que ça va marcher, à la possibilité justement de pouvoir en ligne, hein, vous pouvez poser des questions. Hein, tout simplement interagir, hein, avec l'animateur, c'est-à-dire moi. Donc je viens d'installer ceci et j'ai d'ailleurs une question qui est là de Nico. Hein, un de nos amis de la web radio Akasha et de Facebook aussi, et qui donc nous lit le message suivant. Coucou Olivier et Cédric. Hein, donc Nico, vu le retard qu'on a pris, je lis ta question en premier, hein, et ensuite je rentrerai dans le vif du sujet. Donc une question, les habitants de l'île de Pâques étaient plutôt polynésiens, or il a souvent été constaté que les statues sont plutôt de style Inca. Y a-t-il des pistes de cette intrigue? Bonne émission à vous deux. Alors Nico, je te remercie pour la question. Cédric, j'archive la question pour qu'elle puisse donc être donc enregistrée. Alors, en effet, c'est justement le sujet que l'on aborde maintenant, c'est-à-dire la question du peuplement de l'île. Hein. Il y a en effet un certain nombre d'hypothèses. Hein. Et disons qu'il y en a deux principales. Hein. La première pose le prédicat que nous avons un peuplement qui viendrait de l'ouest, hein, c'est-à-dire de la Polynésie, hein, et une autre hypothèse importante qui parle, elle, d'un peuplement, en effet, qui viendrait des peuples, effectivement, précolombiens de l'Amérique du Sud, hein, et dont les Incas, dont, effectivement, Nico, tu nous parles dans ta question. Alors, aux origines, déjà, à partir de quand y a-t-il un peuplement dans cette île ? Alors, cette île, selon le scientifique anthropologue américain dont je vais pas mal parler ce soir, qui est William Molloy, hein, dont les dates sont 1917 et 1978. Cet anthropologue a énormément travaillé sur l'île de Pâques et nous livre énormément d'informations sur cette civilisation si éloignée. Lui, Molloy fait remonter un premier peuplement de l'île à 600 de notre ère, c'est-à-dire le 7e siècle. Hein. Il faut savoir que les différentes études basculent entre un peuplement le plus lointain possible, le 5e siècle, autour de 400, hein, et jusqu'à un premier peuplement au début du 13e siècle, hein, c'est-à-dire en 1200. Donc c'est une fourchette assez large. Hein. Mais bon, ce sont les études scientifiques qui nous donnent ça. On essaiera de se ranger autour de l'hypothèse de Molloy qui est assez intéressante sur un peuplement vraiment qui pour nous situe au début du haut Moyen-Âge. Hein. Alors, d'où viennent ces populations ? Donc, c'était une île évidemment déserte à l'origine, hein, et il y a des premières populations. Alors, ces premières populations, effectivement, comme je le disais tout à l'heure en répondant à la question de Nico, viennent de deux origines différentes. Hein. La première, cela nous amène à des études sur une population qui viendrait de l'ouest. Hein. À l'ouest, je vous le rappelle, mes amis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, on est à 4000 kilomètres, hein, 4000 kilomètres de Tahiti, hein, c'est-à-dire de la Polynésie. Alors on pense que ces populations seraient arrivées dans l'île de Pâques à ce moment-là par un moyen de grandes pirogues ou de catamarans. Hein. Alors probablement des îles Marquises qui sont un peu plus près. Tahiti, on est à plus de 4000, je vous le disais tout à l'heure. Les îles Marquises, c'est 3200 km. Hein. Voire de l'île de Mangareva ou de Pitcairn qui sont situées à 2600 ou 2000 km. Néanmoins, il faut comprendre que même si on est au 7e siècle de notre ère, hein, dans des catamarans ou des grandes pirogues à balancier, il s'agit évidemment d'un exploit pour l'époque tout à fait extraordinaire. Hein, vous imaginez bien que le Pacifique Sud, hein, n'est pas de tout repos, hein, et que des tempêtes peuvent arriver, etc. Hein, ça n'est pas un grand lac. Hein, et donc, donc voilà la première hypothèse. Hein. Alors, pourquoi est-ce que l'on dit ça ? D'une part, parce que la flore et la faune est proche de celle des îles de la Polynésie. Et parce que, donc, nous disent aussi ces théoriciens-là, les Moai, hein, donc ces grandes statues de 4 mètres de haut, ressemblent beaucoup à ce qu'on appelle des tikis. T-I-K-I-S, hein, c'est-à-dire des statues, comment dire, votives, hein, que l'on trouve dans les îles d'Ivaoa et de Tahiti notamment. Voilà ce qui nous fait pencher, hein, ce qui fait pencher les scientifiques pour une hypothèse d'une population venant de l'Ouest. Alors la population de l'Est, et là ça rejoint le peuplement par l'Est, hein, ça rejoint donc la question intéressante de Nico tout à l'heure, ce peuplement par l'Est, eh bien là nous serions donc en présence effectivement de liens entre les temples donc incas, hein, tels qu'on les connaît donc effectivement dans l'Amérique précolombienne, hein, et certaines structures retrouvées sur l'île de Pâques. Alors la population par l'Est, vous le savez, c'est le grand cheval de bataille, hein, d'un autre anthropologue, hein, qui s'appelle Thor Heyerdahl, hein, donc ce Norvégien qui, dont les dates sont 1914-2002, hein, et qui, l'anecdote est connue, avec son radeau, le Kon-Tiki, hein, un radeau donc du Paléolithique, hein, a tenté de montrer, hein, eh bien, que le peuplement de la Polynésie, cette fois-ci, donc l'île de Pâques, mais évidemment bien, bien plus loin, hein, avait été fait effectivement donc depuis l'Est, hein, c'est-à-dire depuis ces grandes civilisations précolombiennes, colombienne, hein, que l'on connaît, les Incas, les Mayas, etc., hein, qui nous ont laissé ces temples si extraordinaires et immenses, hein, en Amérique latine. Alors, cette question donc du peuplement par l'Est, tout simplement, eh bien, se défend selon un certain nombre d'hypothèses. D'une part, la division des populations de la région en deux catégories, qu'on appelle les courtes oreilles, les Polynésiens, je cite, et les longues oreilles, les Incas. Par ailleurs, en 1465, un général du nom de Tupac Yupanqui, hein, qui sera ensuite l'empereur Atahualpa Yupanqui de 1471 à 1493, hein, aurait conquis toutes ces îles. Bon, voilà un autre argument, plus l'argument de la faisabilité de la traversée donc depuis l'Est. Et également, et là c'est évidemment peut-être l'hypothèse la plus intéressante, c'est cela concerne les vestiges, hein, qui sont trouvés sur l'île et qui nous montrent effectivement, hein, que l'île comporte des structures, notamment des bords de murs, des grands temples qu'il y avait dans l'île, des grands crématoriums aussi, de toute la statue terre monumentale qui fait effectivement penser, en effet, hein, à une culture qui aurait pu s'importer depuis l'Est, et donc là, pour le coup, franchir les 3600 km qui les séparaient des côtes continentales du cône sud, hein, de l'Amérique latine. Alors, bien sûr, tout cela intrigue, hein, tout cela fascine, et il y a peut-être une chose que l'on peut se dire, c'est que bah, peut-être, hein, ces peuplements viennent des deux côtés, peut-être qu'il y a eu effectivement un peuplement venant de l'Est qui s'est mêlé avec un peuplement venant de l'Ouest, hein, et que tout cela a formé l'identité donc des Iliens, hein, des Pascouans, hein, qu'on appellera les Pascouans. Et puis il y a la troisième hypothèse, et là je ressors mon professeur William Molloy, hein, c'est cet américain anthropologue qui, lui, a analysé, et là c'est très troublant, hein, a analysé tout simplement eh bien, les chants qui restent encore pratiqués dans la tradition orale de ce qui reste de la population des Pascouans d'aujourd'hui. Hein, donc les chansons traditionnelles. Et il a analysé ces chansons traditionnelles pendant des heures avec des bandes magnétiques, etc. Hein, pendant des heures et des jours, et bien sûr. Et il a mis deux choses en évidence. Hein. La première, eh bien, c'est au niveau de la poésie de ces chants, on trouve des origines qui nous rapprochent de la Chine. Alors là, c'est quand même extrêmement loin. Hein. On peut se demander comment est-ce possible. Et la musique. hein, qui est employé, qui fait penser à ce qui se pratiquait en Inde. Alors là, évidemment, ça nous renvoie aux émissions que j'avais faites, donc, et je rends hommage ce soir à Jean-Claude Carton, encore une fois, puisque la web radio, la web télévision, ben, si j'y suis venu, c'est quand même vraiment parce qu'il m'y a invité, hein, bien sûr. Et dans les émissions que j'avais faites sur les grandes découvertes, dans, donc histoire d'en parler sur la web télé Étoile du Cœur, j'avais évoqué notamment un certain nombre d'hypothèses de chercheurs anglo-saxons qui disent que, en fait, à un moment de l'histoire, et à un moment assez éloigné, hein, peut-être autour de l'an 1000, hein, eh bien, la marine chinoise a été extrêmement importante, hein, et aurait donc rayonné un peu tout autour du monde. Alors pourquoi pas, effectivement, une influence à un moment donné sur ces îles. Tout cela, évidemment, est à prendre avec des précautions, puisque ces trois hypothèses, hein, les deux grandes hypothèses Est ou Ouest, hein, troisième hypothèse, influence indo-chinoise ou chinoise, évidemment, sont bon, évidemment des théories. Hein. Et moi, je pense souvent que, bon, probablement, hein, on peut peut-être essayer de trouver des voies moyennes, selon toutes ces théories, pour essayer de trouver ou de s'approcher, si possible, donc de la réalité. Alors, évidemment, qu'est-ce qui va se passer sur cette île? Eh bien, ou du moins ce que les historiens, les anthropologues, les archéologues qui ont travaillé sur tout cela, qu'est-ce qu'ils nous disent, hein, en fait, en quelque sorte. Alors, première chose, on distingue, hein, principalement deux grandes périodes, hein, dans l'histoire de l'île de Pâques, si vous voulez. Hein. La première, bah, ça va être effectivement une société très hiérarchisée, hein, qui, des origines de la population de l'île, hein, jusque à peu près, nous disent les sources, hein, jusqu'à à peu près le 15e, 17e siècle, eh bien, on va avoir donc effectivement le culte des statues, hein, ces grandes statues, ces moai, hein, donc qui vont dominer l'île avec une caste de prêtres très hiérarchisée. Hein. Eh bien, cette civilisation-là, la civilisation des statues, le culte des statues, donc, dont on voit encore aujourd'hui quelques restitutions au bord de la mer, hein, notamment que ces statues sont d'une part toujours construites au bord de la mer et tournées vers la terre, hein, avec les yeux qui regardent vers le ciel, c'est important, hein, et souvent liées à d'immenses crématoriums, hein, que l'on a retrouvé justement toujours vers les côtes. Cette civilisation donc très hiérarchisée, manifestement, au début du XVIIe siècle, hein, eh bien, est en proie à une révolution. C'est-à-dire que les statues, pour des raisons encore aujourd'hui relativement inconnues, sont abattues. Hein. La caste des prêtres est démantelée. Et on a effectivement un changement de culte, hein, de religion de la part de la population. Hein. Et ce changement de culte, hein, eh bien, ça va être l'avènement de ce qu'on appelle le culte donc de l'homme-oiseau. Hein. Donc, à l'origine, hein, dans ce qu'on a tenté de reconstituer de la religion, hein, des Pasquans, hein, il y avait d'abord le dieu créateur, qu'on appelle Make-Make, M-A-K-E, M-A-K-E. Hein. Ensuite, donc, des origines jusqu'au XVIIe siècle à peu près, le fameux culte des Moai, les Moai de 4 mètres de haut. Tous ces Moai, hein, hein, était sorti d'une carrière attenante au volcan, hein, donc principal de l'île, hein, ce sont des îles volcaniques, hein, bien sûr, entourées de corail, de coraux, hein, et donc ce grand volcan, donc bon, effectivement, servait en même temps de carrière. C'est là que l'on taillait les immenses moailles, dont on voit encore aujourd'hui preuve qu'il y a eu vraiment un événement révolutionnaire, ou en tout cas de révolte, hein. Effectivement, donc un certain nombre de ces statues sont restées bloquées, non terminées dans cette carrière. Ce sont des images que l'on peut voir tout à fait impressionnantes. Et puis ensuite, donc, disons, du XVIIe siècle jusqu'au moment de la conquête, hein, par les Occidentaux, eh bien, on a l'avènement de ce qu'on appelle le culte de l'homme-oiseau, le Tangata Manu. Alors, qu'est-ce que c'est que ce culte de l'homme-oiseau ? Eh bien, c'est un culte qui succède à celui des statues, hein, c'est-à-dire que les dix clans, en fait, hein, de l'île, hein, dont je peux vous donner les noms rapidement, hein, ces dix clans familiaux, hein, Aka Anga, Anakena, Eiki, Maetua, Tai, Tepeu, Terevaka, Tongariki, Vaimata, Vinapu, hein, ces clans se réunissent une fois par an, hein, pour désigner un champion par clan, hein, qui va avoir pour tâche de accomplir une véritable course. Hein, c'est-à-dire que les dix coureurs sont en compétition. Hein, et l'objectif de la course est de dévaler un des flancs de l'île, de traverser au prix du danger, notamment des requins qui pullulent dans la région, un petit bras de mer pour aller sur un îlot proche de l'île et récupérer le premier œuf d'oiseau de l'année. Ensuite, ramener cet œuf, bien sûr, le donner au chef du clan. Alors, et bien sûr, celui qui arrive le premier, eh bien, cela donne la suprématie du clan sur les neuf autres, hein, pendant un an. C'est ça, le culte de l'homme-oiseau. C'est d'ailleurs au passage, hein, parce que j'aime bien faire des références cinématographiques, c'est au passage l'objet du très beau film que l'on a dû voir dans les années 90, je crois, qui s'appelait Rapa Nui, un film hollywoodien, hein, qui raconte, justement, explique ce qu'était que ce culte de l'homme-oiseau dans l'île de Pâques. Donc voilà à peu près le contexte, hein, si vous voulez, de ce qu'est cette évolution un peu de cette civilisation, hein, dont on ne sait franchement encore pas énormément de choses. Alors, ensuite, hein, quelles sont un peu les grandes caractéristiques, hein, de cette civilisation un peu telle qu'elle se présente à nous. Alors, en premier, je reviens encore une fois dessus, bien sûr, il y a ces fameux moai. Hein, c'est évidemment la chose la plus emblématique, hein, dont je vous ai dit tout à l'heure, hein, qu'ils étaient sculptés dans le volcan, hein, de l'île, le principal volcan qui s'appelle le Rano Raraku. Hein, c'est un volcan, évidemment, de type hawaïen, hein, c'est-à-dire que ce sont des volcans, vous savez, hein, dans la géologie de l'Océanie, avec des îles, hein, qui donc surgissent de la mer autour d'un volcan qui entre en éruption. Hein, donc on est vraiment dans ce type même au niveau géologique et volcanique. Et ces moai, hein, que l'on voit, comme je vous le disais, tout autour de l'île, hein, notamment pour ceux qui ont été remis en état, hein, sont au nombre en tout de 900. Hein, ils font 4 mètres de haut en moyenne. Hein. Donc sculpté, taillé dans cette carrière du volcan Rano Raraku. Hein. Et le plus grand d'entre eux fait 10 mètres de haut, hein, et jusqu'à 75 tonnes. On a retrouvé, hein, avant la révolte hein, qui a eu lieu dans l'île, jusqu'à des statues qui auraient fait 21 mètres. Alors, comment est-ce que ces Moai étaient déplacés ? Là, encore une fois, nos anthropologues, nos archéologues essayent de nous fournir des explications. Hein. Bah, tout simplement, je vous disais tout à l'heure que l'île était considérablement boisée. Ce qui d'ailleurs nous interroge quelque part sur un message écologique dont on pourra parler tout à l'heure. Donc cette île très boisée, hein, eh bien tout simplement, pour déplacer les statues, il y avait un système de rondins hein, sur lesquels on les faisait rouler hein, pour les amener ensuite jusque donc au bord de, en bord de mer hein, pour installer les fameux temples hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure hein, et le développement donc de culte, du culte de ces Moai avec une caste de prêtres hein, et donc des Moai de plus en plus grands, c'est-à-dire un emballement. Un emballement comment dire de la comment dire de du culte des Moai qui effectivement va entraîner d'une part bah, tout simplement l'épuisement des ressources de l'île hein, et puis d'autre part va entraîner hein, tout simplement un surpeuplement. Et évidemment une révolte, hein, une révolte qui va provoquer l'installation du nouveau culte dont je vous ai parlé tout à l'heure, celui de l'homme-oiseau. Alors, également, une autre caractéristique, car cette civilisation quand même qui nous semble complexe, hein, même s'il n'y a plus pas grand-chose qui en est resté, cette civilisation... posséder une écriture. Vous me direz, hein, on le sait dans l'histoire, hein, le passage de la préhistoire à l'histoire, bah, c'est l'invention de l'écriture. Hein. Vous savez que l'écriture, dans le monde ancien, tel qu'on le connaît, hein, elle vient de la Mésopotamie, hein, c'est-à-dire en gros de l'Iran-Irak actuel, hein, donc de ces régions dont on nous parle tant pour d'autres raisons à l'heure actuelle. Alors, ces tablettes, que l'on appelle les rongo-rongo, hein, effectivement, donc, nous fournissent hein, une écriture hein, que, pour l'instant, bien sûr, personne n'est arrivé à déchiffrer. Une écriture de type hiéroglyphique, hein, et qui, évidemment, est étudiée. Il y a très peu de ces plaques, de ces tablettes qui restent, hein, et elle raconte, hein, mais pour l'instant on ne sait pas exactement totalement ce qu'elles veulent dire, hein. Elle raconte hein, bien sûr l'histoire hein, de cette civilisation dont j'ai tenté de vous donner les principales grandes lignes. Alors, encore une fois, là, William Molloy, donc cet anthropologue dont je vous ai parlé déjà plusieurs fois tout à l'heure, lui a étudié ces tablettes, et pour lui, elle lui rappelle notamment des tablettes similaires que l'on trouve dans la vallée de l'Indus. Hein, c'est-à-dire l'Indus, donc c'est vraiment l'Asie centrale, si vous voulez, c'est-à-dire là où effectivement l'écriture a été inventée il y a plusieurs millénaires. Donc ça c'est un aspect intéressant, hein, plus bien sûr donc les fameux Moai, et puis également les pétroglyphes, hein, c'est-à-dire des dessins que l'on trouve sur les pierres hein, à différents endroits de l'île, hein, et qui montrent donc l'instauration d'une mythologie hein, ou d'un début d'une mythologie de ce peuple. Voilà à peu près, dans les grandes lignes, hein, ce que l'on sait de l'île de Pâques. Hein. Évidemment, à l'heure actuelle, sous le patronage de l'UNESCO, bien sûr, beaucoup de recherches se poursuivent et bien sûr, on essaie d'apprendre hein, le maximum de choses sur cette île. Néanmoins, Il nous reste à présent à voir pourquoi, finalement, comment se fait-il que cette population, hein, qui à l'origine dépassait les dizaines de milliers d'habitants, hein, au 7e siècle, 20 000, 30 000, peut-être plus, hein, eh bien, comment on passe de 30 000 habitants au début de l'ère chrétienne, si je puis dire, hein, jusqu'à en arriver à 111 en 1877. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette île ? Alors, première chose, et ça, c'est absolument certain, du 7e siècle, hein, jusqu'au début du 18e siècle, c'est-à-dire en fait la découverte, hein, par le Hollandais dont je vous ai parlé tout à l'heure, il est évident que trois facteurs, hein, vont être à l'origine des problèmes des habitants eux-mêmes. Hein. Première chose, cette île est isolée, c'est-à-dire qu'on a là, hein, et c'est incontestable, une expérience d'une civilisation humaine en miniature, hein, qui va donc vivre en vase clos pendant des siècles et des siècles. Donc avec évidemment une surface limitée, hein, et évidemment un épuisement progressif des ressources de l'île, hein, c'est-à-dire des ressources bien sûr tant en matière évidemment de ressources naturelles, hein, mais bien sûr une déforestation de plus en plus importante, un surpeuplement qui va progressivement entraîner des guerres. Et ces guerres vont augmenter encore les problèmes dans l'île, puisque bien sûr elles vont entraîner d'une part la chute du culte qui durait depuis si longtemps des Moai, l'avènement d'un autre culte, hein, et puis évidemment l'entrée en décadence, hein, de cette reproduction de l'humanité, pourrions-nous dire, en miniature. Alors, c'est là qu'effectivement, eh bien, les Occidentaux vont commencer à s'intéresser à l'île. C'est-à-dire qu'au moment où, effectivement, hein, au début du XVIIIe siècle, les Occidentaux arrivent, eh bien, quelque part, la civilisation dont on suppose qu'elle a été extrêmement brillante, étant donné les descriptifs que j'ai pu vous donner, eh bien, est entrée déjà en une profonde décadence, puisqu'on estime au moment, hein, du passage du Hollandais Roger Hoven en 1722 que la population n'est déjà plus que de 2500 habitants. Hein. Donc c'est déjà énorme, hein, comme diminution sur les siècles précédents. Alors, puisque bien sûr l'épuisement des ressources naturelles entraîne quoi, hein, et bien sûr la famine, hein, cela va de soi. Alors, les Occidentaux, donc, vont commencer, évidemment, les grandes découvertes obligent, hein, l'invention des technologies modernes pour l'époque, hein, la boussole, le gouvernail, les grandes voiles, etc., la naissance des grands vaisseaux, vont faire que, bien sûr, on va commencer à explorer le monde un peu partout. Et en 1687, avant la découverte officielle, il y a un pirate du nom de Edward Davis, hein, qui mentionne son passage au large de l'île, hein, mais il ne s'y arrête pas. Première mention. 1722, donc, c'est le Hollandais Jacob Roggeveen, hein, qui va être le premier officiellement reconnaître les côtes de l'île de Pâques. Et puis ensuite, il y a un Espagnol, le 15 novembre 1770, du nom de González, qui va prendre officiellement possession de l'île sous le nom de San Carlos. Hein, parce que voilà, on ne fait pas forcément le lien avec la découverte précédente du navigateur en 1722. Bon, en 1770, les Espagnols butent sur l'île, en prennent possession officiellement au nom de San Carlos. Hein, évidemment, bien sûr, c'est le nom, hein, de l'île de Pâques qui triomphera plus tard. Un peu plus tard, en 1774, cette fois-ci, il s'agit du fameux capitaine Cook, hein, grand navigateur parmi les grands navigateurs, hein, qui donc du 13 au 17 mars 1774 va reconnaître à son tour l'île, une île qu'il jugera sans intérêt, dit-il. Mais néanmoins, à cette époque-là, rappelez-vous, on est après le XVIIe siècle. Je vous avais dit que le XVIIe siècle était la césure, hein, au moment où les statuts sont renversés. Eh bien, en 1774, effectivement, Cook remarque ces gigantesques statues qui semblent avoir été abattues et qui se trouvent tout autour de l'île. Alors, ça intrigue quand même les scientifiques qui font partie de l'équipage du capitaine Cook, hein. Et on va donc se livrer à une description géographique, une description de la faune, de la flore, un peu dans le cas des grandes expéditions de l'époque, hein. Rappelez-vous, hein, la Pérouse, tout ça, ben c'est un peu la même chose, hein. Et également à retenir un allemand naturaliste du nom de Reinhold Forster va commencer à dessiner les premiers Moai. Vous avez vu cette semaine que j'ai mis sur la page de la web radio Terrazen un dessin ancien des Moai, hein, que je vous recommande de voir, hein, c'est assez intéressant de voir comment justement les premiers naturalistes, les premiers occidentaux ont représenté ces statues tout à fait mystérieuses, hein, et qui pour nous aujourd'hui le sont encore, bien sûr. 1786, ça continue, hein, les Occidentaux continuent de découvrir cette île, et c'est La Pérouse, hein, le français La Pérouse, hein, dans son fameux tour du monde, hein, lancé par le roi Louis XVI, rappelez-vous, hein, va reconnaître l'île également, en bateau bien sûr, et en établir une carte très précise. Alors voilà, tout cela aurait pu continuer sans grand problème, si ce n'est que, le 19e siècle qui s'annonce va être, hein, une véritable catastrophe, hein. Non pas pour la civilisation de l'île qui déjà a quasiment disparu, on l'a bien compris, mais pour la population tout simplement qui y reste. Hein. Puisque je vous rappelle qu'à la fin, enfin vers la fin du 19e siècle, il n'y a plus que 111 habitants, hein, quand même. Alors, ce 19e siècle, qu'est-ce qui va se passer dans l'île? Qu'est-ce qui va décimer la population comme ça? D'abord des maladies. La tuberculose, la syphilis, toutes ces maladies apportées par, évidemment, les Occidentaux. La réduction en esclavage de ce qui reste des habitants, entre 1859 et 1863. Hein, 1500 Iliens pascouans seront déportés, hein, pour, être utilisés comme esclaves. Hein. En 1861, on capture ce qu'il reste des chefs guerriers, c'est-à-dire les arikis, et de la caste de ce qui reste des prêtres. Hein. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de 1860 à 1870, l'île est dévastée par des épidémies. En 1870, il ne reste plus que 3% de la population d'origine. On a un sondage là de la composition de la population à l'époque. 3% de la population d'origine, donc c'est assez éloquent. 45% d'Européens, donc évidemment la colonisation, et 1% de Chinois, qui tentent pour une partie du commerce dans l'île. Ensuite, l'île est évangélisée. Il y a une mission catholique qui s'y intéresse, qui s'y installe surtout, de 1864 à 1866. Et enfin, à partir de 1868, hein, il n'y a vraiment plus beaucoup de monde, eh bien l'île va servir tout simplement pour les puissances colonisatrices, hein, l'installation de l'élevage. En 1888, donc, elle est définitivement annexée, hein, au Chili. Alors, voilà un peu tout ce que l'on peut dire sur cette histoire, qui est une histoire quand même assez éloquente, hein, puisque vraiment on voit d'une part une civilisation brillante hein, qui eh bien, est victime hein, de son propre environnement qui va peu à peu se réduire, les ressources naturelles qui s'épuisent, toutes les conséquences évidemment liées au surpeuplement, ensuite évidemment les famines, les maladies. Hein. Une révolution qui va faire abattre ce culte des statues, ce culte des Moai, l'instauration de ce culte tout aussi mystérieux de l'homme-oiseau, hein. Et puis enfin, bah tout simplement, une décadence entre guillemets de la civilisation des Pasquans qui va être parachevée, pourrions-nous dire, hein, par le choc. Je vois pas comment qualifier ça autrement hein, que va représenter la rencontre évidemment avec les Occidentaux, le choc biologique hein, dont on nous parle souvent quand il s'agit d'histoire des grandes découvertes. Hein. Vous savez qu'on explique souvent que si les grands empires incas composés avec des armées de milliers d'hommes ont pu être vaincus par quelques centaines de conquistadors, hein, que ce soit Cortés au Mexique, que ce soit Pissarro. Pour les Incas, c'est parce que les Occidentaux ont apporté des microbes qui ont fait que, évidemment, les populations indiennes ont été décimées. Bon, c'est pas évidemment faux, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi bien sûr la duplicité des conquistadors et les ruses qu'ils vont utiliser hein, pour progressivement tout simplement s'emparer hein, de tous ces peuples. Je vous rappelle hein, que la motivation première de tous ces peuples, hein, bah, de ces conquistadors, c'est le fameux Eldorado, hein, c'est-à-dire cette idée de trouver, hein, d'arriver à mettre la main sur un prétendu trésor gigantesque. Là, évidemment, je tergiverse un peu puisque je vous parle de la conquête, hein, bien sûr, de l'Amérique latine. Alors, pour conclure à présent, quelques mots sur ce qu'il y a hein, autour de l'île de Pâques. Hein, autour de l'île de Pâques, au niveau, si vous voulez, culturel, si on peut dire. Alors, il y a trois choses que je souhaite évoquer. Certaines connues, d'autres moins connues. Alors, au niveau du cinéma hollywoodien, à grand spectacle, pourrions-nous dire, vous avez le film Rapa Nui. Film donc de 1994 de Kevin Reynolds. Ce film donc qui raconte une intrigue autour de la fameuse course annuelle au premier œuf de l'année, donc le Tangata Manu, la fameuse affaire donc du nouveau culte instauré dans l'île après la chute des Moai, c'est-à-dire le culte de l'homme oiseau. Très beau film à voir incontestablement sur ce sujet. Le deuxième film que je souhaite évoquer est un film complètement inconnu, qui a, je pense, sombré complètement dans l'oubli, mais que j'ai réussi à retrouver grâce aujourd'hui à Internet, à YouTube, etc. On a heureusement parfois des internautes qui mettent en ligne ou remettent en ligne des choses complètement disparues, qu'on croyait disparues. Ce film, c'est Les Soleils de l'île de Pâques. Alors, Les Soleils de l'île de Pâques, c'est un film de 1972, d'un réalisateur qui s'appelle Pierre Caste. Pierre Caste, donc, qui est né en 1920, décédé en 1984. Et ce film raconte une histoire très étrange autour justement des Moai. C'est-à-dire que c'est un film à la fois ésotérique et de science-fiction. Alors, je vous lis le petit synopsis que j'ai retrouvé. Six personnes de nationalités différentes et ne se connaissant pas reçoivent simultanément un message codé les invitant à se rendre à l'île de Pâques. Norma, astronome brésilienne, Alexandra, fille d'un éleveur de chevaux, Elvio, entomologiste chilien, Irénio, prêtre Macumba, Françoise, ethnologue, et Maurice, spécialiste de l'énergie solaire. Alors Maurice, on reconnaît l'acteur parce qu'il est joué par Maurice Garrel. Hein, si vous vous souvenez de cet acteur célèbre qui a beaucoup joué, notamment dans les films de Claude Sauté. Hein, donc c'est Maurice Garrel qui incarne le spécialiste de l'énergie solaire. Tous ces personnages donc, se retrouvent dans l'île, où ils assistent à la manifestation cosmique des soleils des êtres venus du fond de l'espace. Alain, un psychiatre français qui les a accompagnés, sera le catalyseur de cette rencontre et restera sur l'île pour témoigner de cette étrange vision. Alors vous me direz, l'histoire de la vision, des gens qui se retrouvent autour de quelque chose, ça nous rappelle un autre film qui est bien connu, qui est Rencontre du troisième type de Steven Spielberg. Hein. Film d'ailleurs qui sera qui est postérieur à 1972, puisque je crois que Rencontre du troisième type, c'est la fin des années 70, début 80. Et c'est extrêmement intéressant au niveau du scénario, puisqu'effectivement, bah, toutes ces personnes isolées qui ne se connaissent pas reçoivent, s'évanouissent à un moment, reçoivent un message. Et ce message les amène à l'île de Pâques. Donc c'est l'idée, la vieille idée, hein, bien sûr, donc je ne prendrai pas parti ce soir, bien sûr, de se dire que, eh bien oui, ces civilisations d'Amérique du Sud, et qui plus est de l'île de Pâques, auraient été en contact avec des phénomènes, comment dire, de type cosmique, de type extraterrestre, etc. Rien ne le prouve, mais parfois des choses troublantes liées à ces civilisations nous interpellent. Hein. Je ne reviendrai pas sur la théorie des anciens astronautes, sur ces personnages sculptés, hein, donc sur les côtes chiliennes qui représentent des personnages qui semblent porter des casques, sur bien sûr les fameux alignements de Nazca, hein, ce gigantesque calendrier solaire, hein, sur évidemment tout ce qui peut être lié cette civilisation mystérieuse de l'île de Pâques. C'est vrai que quand il y a un mystère, eh bien l'homme est porté à rêver. Et moi, je crois que le rêve, l'imaginaire, est quelque chose d'indispensable. Donc, comme toujours, d'ailleurs, dans toutes les émissions que j'ai toujours faites, moi, je laisse toujours ouvert la place et la liberté totale à ce que chacun puisse penser ce qu'il en a envie de l'analyser au fond de son cœur. Troisième et dernier petit intermède autour de l'île de Pâques, hein, petite balade autour de l'île de Pâques. Donc après ces deux grands films dont je vous ai parlé, alors le soleil de l'île de Pâques était encore disponible intégralement sur YouTube il y a environ 15 jours, 3 semaines, puisque je l'ai visionné pour préparer cette émission. Hein. Dernier point, alors là que j'ai visionné avec un rare plaisir d'enfance, si je puis dire, c'est l'excellente série du commandant Cousteau, que vous connaissez sans doute toutes et tous, l'Odyssée sous-marine. Hein. C'est la première d'une longue série, vous savez qu'il y a eu plusieurs séries de Cousteau. Hein. Celle-ci a été date de 1978, hein, et elle s'appelle bien sûr Les Mystères de l'île de Pâques, hein, où donc dans au travers d'un petit documentaire, hein, d'à peu près 45-50 minutes, eh bien Cousteau se pose un peu les mêmes questions qu'on s'est posées ce soir, hein, et c'est de cette émission que j'ai tiré pas mal d'informations, notamment concernant les théories de cet ethnologue William Molloy, qui d'ailleurs est mort quasiment peu de temps après la réalisation de cette émission. Et puis alors, il y a toujours dans les reportages, les Odyssées sous-marines de Cousteau, une voix off qui fait le commentaire. Hein. Bah, sachez, j'en avais parlé, je me souviens, Jean-Claude, là où tu es, tu dois sourire. Qu'on en avait parlé ensemble il y a peut-être 2 ans de ça, quand j'avais fait une émission sur les grandes découvertes, et que je regrettais l'impossibilité de trouver justement cet épisode consacré à l'île de Pâques de l'Odyssée sous-marine de commandant Cousteau, et ben voilà, aujourd'hui, et bien pareil, on le trouve sur YouTube, et je ne vais pas manquer demain d'aller nourrir la page Facebook de la web radio TerraZen pour cette émission, en vous mettant les liens des Soleils de l'île de Pâques et de l'émission de Cousteau. Je vous recommande de la regarder, c'est un régal. Quant à la voix off dans l'émission de Cousteau consacrée à l'île de Pâques, c'est ni plus ni moins que Léo Ferré. Alors, vous savez toutes et tous, en tout cas ceux qui me connaissent, mon grand attachement pour ce chanteur de la grande tradition de la chanson française, hein, qui évidemment a disparu en 1993, et que j'ai eu le plaisir d'entendre une fois en 1990 au théâtre de Jazé. Donc c'est la voix qui fait le commentaire, c'est Ferré, donc c'est vraiment une très belle et bonne émission. Voilà, donc ce que l'on pouvait ce soir, en tout cas ce que je pouvais ce soir dire, je termine cette émission qui aura duré un peu moins d'une heure. Malheureusement, nous avons eu les problèmes techniques que nous avons eu au début. C'est la première d'Histoire du Soir. Personne, je pense, ne nous en tiendra rigueur. Il est évident que la prochaine émission fonctionnera comme sur des roulettes, j'en suis sûr. Et je souhaite remercier encore beaucoup Cédric, car sans Cédric, sans ta patience, c'est pas avec une heure de retard qu'on aurait démarré, mais malheureusement on n'aurait pas pu la faire, et on a quand même pu la faire, cette émission, et je t'en remercie, Cédric, de tout cœur. Voilà, donc l'émission est terminée. Alors, cette émission sera donc disponible en podcast, hein, sur le site la web Radio Terra Zen. Je vous rappelle pour les prochaines émissions, qui j'espère sont très nombreuses, que vous pouvez interagir avec nous sur la page des animateurs en posant vos questions. J'y réponds en direct, ce qui est quand même pas mal. Et que donc cette émission, donc Histoire du Soir, hein, présentée par Olivier Buret, c'est moi, cette émission a lieu tous les derniers jeudis de chaque mois, de 21h à 22h, hein, consacrée à une thématique historique liée souvent à des grands sujets, de grands mystères de l'histoire, hein, ou des thèmes mythiques. Hein. Ce soir, donc, nous avons parlé de l'île de Pâques. Le jeudi 29 octobre, nous parlerons de Dracula. Hein. Le mythe de Dracula, hein, je vous l'ai annoncé tout à l'heure en début d'émission. Ce mythe de Dracula, le mythe du vampire, hein, mais par-delà le mythe du vampire, il y a un authentique prince, hein, d'Europe orientale, hein, qui s'est appelé Vlad Dracul, hein, et qui effectivement donné naissance au mythe de Dracula. On essaiera de comprendre ensemble le jeudi 29 octobre pourquoi. Voilà, je vous remercie toutes et tous pour votre écoute. Je remercie par avance celles et ceux qui écouteront ce podcast. On a démarré un peu dans les problèmes techniques, mais c'est ainsi, rien n'est jamais totalement lisse dans le monde, et la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Et pour ma part, je suis tout à fait ravi d'entamer ce nouveau cycle d'émissions historiques avec vous toutes et tous. Bonne soirée, au revoir et à bientôt.